9. La dame de verre. Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter de part et d'autre les plaintes réciproques, c'est pour ainsi dire ne pas sortir de l'audience et entendre du matin au soir plaider et parler procès. Jean de La Bruyère. À 1000 lieues de soupçonner l'équipé de son page, Edan de Vaumacel venait d'être introduit dans la salle noble de l'hôtel seigneurel. Il ne s'y était point rendu seul. Convié avec Cowyer de Thèves, les deux hauts hommes s'étaient fait accompagner de leurs écuyers qui, par respect des convenances, demeuraient un peu en retrait. Cette grande salle possédait des dimensions et des voûtes dignes d'un sanctuaire religieux. Les pas et les voix résonnaient dans ce vaste volume. Aménagé à un étage un peu plus élevé que le chemin de ronde, l'espace était éclairé par de hautes fenêtres à meneaux qui laissaient entrer le soleil à flots. Cette lumière dorait des reflets de miel sur les meubles ouvragés et magnifiait les couleurs vives des scènes de banquets, de chasse et de travaux des champs qui ornaient les tapisseries. Devant les bancs et les chaires à grand dorsal, étaient parfois disposés des carrels, tabourets bas et molletonnés pour le confort des pieds. Sur une table barlongue, aux angles ornés de têtes de cerf, scintillait une salière orfèvrie en forme de navire. Le luxe du mobilier était conçu pour impressionner autant que pour séduire. Tentures, blasons et dais, sans oublier la plaque de contrecœur de la cheminée, portaient tous la rencontre de cerf héliophore de Bromel. Lorsque les visiteurs entrèrent, la salle accueillait déjà quelques personnes. Cependant, ses dimensions lui permettant de loger la cour ducale, elle parut assez vide aux nouveaux venus. La conversation y résonnait un peu perdue sous les voûtes. Les valets qui avaient introduit les chevaliers s'effacèrent en leur indiquant une grande chaire à des seigneuriales. Le haut siège était occupé par une dame à laquelle quelques suivants tenaient compagnie. Les sires de Thèves et de Vaumacel s'avancèrent vers la maîtresse des lieux, mais n'eurent pas à traverser toute la halle pour la saluer. Pleine de courtoisie, elle se leva et vint à leur rencontre. « Ah, mon cher Cowyer, vous voici enfin !» salua Azalaïs de Verre avec un réel accent d'amitié. Elle tendit les deux mains au chevalier de Thèves, qui les saisit en s'inclinant légèrement. Cowyer de Thèves eut toutefois la retenue de ne point les baiser et encore moins d'embrasser la dame, comme il l'avait fait au cours des joyeuses retrouvailles du printemps. En l'absence du seigneur de Verre, cela eût été déplacé. En outre, quelque chose avait également changé chez la jeune châtelaine. Azalaïs de Verre était apprêtée avec une grande simplicité, trop austère pour son âge. Elle portait une guimpe qui voilait complètement sa chevelure et dont la barbette couvrait en partie le menton. Quoique taillée dans une soie fine, sa robe bleu nuit possédait une coupe fort décente, presque collet monté. C'était à peine si elle découvrait les doigts et la pointe d'un soulier. Seule sa ceinture brillait de quelques ors froids, mais dans l'ensemble, la toilette de la jeune femme n'eut point déparé sur une veuve. Pour quelqu'un qui, comme le chevalier de Thèves, avait fréquenté dame Azalaïs à la cour, à la chasse, voire au bain, la métamorphose était saisissante. Aussi eut-il la délicatesse de se montrer moins familier que naguère, de crainte de froisser cette modestie nouvelle. La dame ne se méprit point sur son tact et ne lui en montra que plus d'amitié. « Quelle joie de vous revoir en si bonne forme !» s'écria-t-elle, les yeux brillants. « Nous nous sommes fait tant de soucis pour vous. On nous a rapporté que votre blessure était sérieuse. »«
Si elle l'a été, ce fut surtout pour ma fierté, » éluda le sire de Thèves avec un sourire un peu contraint. « Il semble que je sois destiné à mordre la poussière chaque fois que je défends les droits de madame la duchesse. »«
Allons, allons, Cowyer !»
le rabroua aimablement Dom de Maubrenas, qui arrivait dans le sillage de la châtelaine.
« Alindinas, tu as été victime d'un coup irrégulier. »
Sire Dame et Sire Fitzurse nous ont rapporté que vous n'en aviez pas moins vaincu votre odieux cousin de l'Aulnay, complimenta la dame. Comme j'aurais voulu voir cela et la tête de sa pimbèche d'épouse. Le sire de Maubrenas n'était pas le seul membre de la compagnie à avoir mis ses pas dans ceux de la jeune châtelaine. Tout en gardant une distance de bon aloi, un jouvenceau d'une parfaite élégance l'avait accompagné, ainsi qu'une dame entre deux âges, à l'air avenant et fatigué, qui souriait au chevalier de Thèves tout en restant un peu en retrait. Lorsqu'il la découvrit, l'expression du sire de Thèves s'éclaira.
« Dame Almody ! » s'écria-t-il. « Quel plaisir de vous revoir !»«
Croyez bien que c'est un plaisir partagé. »
« Comme la captivité a dû vous paraître longue, en compagnie de Madame la Duchesse. »«
Oh, nous étions fort occupés par toutes les entreprises que vous savez, »
tempéra la dame de compagnie.
« Et nous n'étions pas si maltraités. »«
Almody est la plus brave de nous tous, » plaisanta Azalaïs de Verre, en la prenant affectueusement par le bras. « Il lui en a fallu du courage pour assurer seul le service de Madame ma mère, » pendant toute une année.
Voilà un privilège que nous sommes nombreux à lui envier,
salua galamment Cohir de Thèves. À ce jeu-là, d'ailleurs, Rivalon l'a emporté sur bien des chevaliers, précisa la châtelaine en se tournant avec grâce vers le damoiseau qui l'escortait. C'est lui qui a retrouvé Madame la Duchesse et Almody à Mondoir, au péril de sa vie.
Votre gloire est donc faite « avant que vous n'ayez chaussé les éperons !»
complimenta le sire de Thèves. L'écuyer remercia d'une inclination de tête à la modestie étudiée.
« J'ai eu plus de chance que de bravoure, » fit-il valoir avec légèreté. « Sans le renfort de Monseigneur Méléagant et de Sire Engoran, il est possible que ma seule prouesse eût été d'expirer aux pieds de la duchesse. »«
Pareil mort vous eût immortalisé, » plaisanta la châtelaine.
Peut-on rêver de plus belles sorties ?
Plantant son regard clair dans celui d'Edan de Vaumacel, elle lui demanda tout à trac.
Qu'en dites-vous, chevalier ?
J'en dis que le succès de Messire Rivalon est plus heureux encore.
Plus heureux que beau ? Vous le jalousez donc plus que vous ne l'admirez ?
Je lui jalouse certes un haut fait si admirable.
Il ne tenait qu'à vous de le faire à sa place.
Aussi les griefs que je puis avoir sont-ils destinés à ma personne et non à celle de Messire Rivalon.
Tiens donc, seriez-vous d'accord avec les gens qui ont mauvaise opinion de vous ?
De quelle opinion parlez-vous, dame ? De celle des gens qui envoient des assassins ? Du parti que vous combattez ?
« S'il est une qualité que l'on peut vous reconnaître, » railla Azalaïs de Verre, « c'est de faire l'unanimité chez des partis opposés. »
Cohir de Thèves, que le tour de la conversation embarrassait, crut bon d'intervenir.
« Il y a encore peu de temps, je partageais vos préventions contre Sir Edan, » dit-il. « Mais son action à Lindinas m'a amené à réviser mon jugement. »
« Après ce que vous avez perdu en défendant Madame la Duchesse, mon cher Cohir, vous êtes bien magnanime. »«
Je vous prie d'écouter ce que Sir Edan vous dira pour sa défense. Je ne doute pas que vous partagerez mon sentiment à son égard. »«
Oh, ce n'est guère utile. Sire Dom et Sire Fitzurse m'ont déjà rapporté l'essentiel de votre plaidoyer, Sir Edan. » C'est d'ailleurs grâce à leur intercession que je ne vous ai point interdit ma porte, car après tout, on peut comprendre que vous ayez été empêtré dans un conflit de loyauté.
En outre, votre conduite récente semble témoigner en votre faveur. Le chevalier de Vaumacel salua cette demi-absolution. L'expression de la dame de Verre restait toutefois empreinte de dédain.
Vous conviendrez néanmoins que paraisse fort discourtois, un chevalier bromalois qui fait passer la parole donnée au grand maître du sacre avant le service dû à la duchesse de Bromel, poursuivit-elle. Vous êtes venu vous battre à Lindinas, fort bien. Mais c'est à la cour de justice qu'on vous attendait. Un tel manque d'à-propos serait presque drôle s'il n'avait eu de si fâcheuses conséquences.
« Vous êtes sans ménagement, dame, » répondit le chevalier aux épines. « Mais sachez que je suis prêt à tout, même à faire publiquement acte de contrition, si cela peut racheter l'honneur de Madame Odéarde. »
En vérité, quel beau geste. Mais il ne doit plus vous coûter grand-chose, considérant ce qui vous reste de réputation.
Le chevalier de Thèves, qui semblait plus troublé que le sire de Vaumacel par ses reproches, s'apprêtait à reprendre la parole, mais Azalaïs de Verre l'arrêta d'un geste.
« Oui, oui, je sais, mon cher Cowher, je manque à tous mes devoirs d'hôtesse, »
le prévint-elle.
« Je n'ai même pas salué le chevalier de Vaumacel ni pris des nouvelles de sa santé. Ma foi, sire Edan, pour quelqu'un de gravement blessé, vous semblez vous porter comme un charme. Je pense que mes vœux de prompt rétablissement sont tout à fait superflus. »«
Vous me trouvez bonne mine ?» ironisa Edan. C'est un premier pas encourageant. »
La châtelaine le gratifia d'un sourire sarcastique.
« Vous n'avez pas changé, Vaumacel. Vous aimez toujours que les dames fassent leurs griffes sur votre personne. » Sans plus épiloguer, elle invita les visiteurs à prendre siège avec elle pendant qu'on leur servait des rafraîchissements. Abandonnant la chaire seigneuriale, Azalaïs de Verre préféra gagner les coussièges aménagés dans l'embrasure d'une fenêtre afin de profiter du soleil. En compagnie d'Almodie, elle prit place sur l'une des banquettes de pierre, confortablement garnies de courtes pointes piquées et de coussins. Rivalon et Dame de Montbrenas s'installèrent familièrement sur le coussiège en vis-à-vis. À l'attention de Cowher de Thèves, la châtelaine fit apporter une chaire drapée dans un beau brocart ainsi qu'un carrel capitonné, afin qu'il pût y reposer sa jambe blessée. Edan de Vaumacel n'eut droit qu'à une chaise assez raide. Tout en restant à la disposition de leur seigneur, les écuyers des chevaliers de Thèves et de Vaumacel purent s'asseoir à distance respectueuse sur une bancelle. Nem eut l'attention attirée par un personnage qui, quoiqu'il ne se mêlât point de la compagnie, ne paraissait pas pour autant faire partie de la valetaille. Rencogné dans l'angle de la muraille et du grand manteau de cheminée, une silhouette sombre se tenait immobile et silencieuse. Comme elle portait une robe ecclésiastique, Nem en déduisit qu'il s'agissait d'un clerc, emplissant peut-être un office de secrétaire au service de la châtellenie. Alors qu'un échanson offrait des hanaps de vin, la dame de verre revint au sire de Vaumacel. Vraiment, vous n'avez pas changé, chevalier, insista-t-elle. Vous n'avez pas pris une ride. Et pourtant, nous ne nous sommes pas vus d'hier. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous plus présenté à la cour ducale ?
Quelques années. Cela remonte à une époque où je n'avais pas encore de différend avec la baronne de Brégor.
De longues années, voulez-vous dire? Cela fait bien 4 ans.
4 ans déjà, ma foi, c'est bien possible.
N'était-ce point à Chaer-le-Duc?
En effet, dame, c'était à Chaer-le-Duc.
Et c'est donc là que vous avez vu pour la dernière fois Madame la Duchesse?
Très probablement.
Très probablement. Madame Odéarde risque d'être piquée d'avoir si peu marqué vos souvenirs.
Peut-être ma mauvaise mémoire sert-elle un devoir de discrétion.
Azalaïs de Verre fit une moue incrédule.
Et moi, lança-t-elle, ai-je été oubliée par souci de discrétion?
Le chevalier, l'ayant scruté un instant avec plus d'attention, il parut la reconnaître.
Vous étiez une des demoiselles de compagnie qui entourait Madame la Duchesse dans les jardins.
Ah, tout de même, se récria Azalaïs d'un air un peu pincé. Je n'étais donc pas si transparente que cela. Pendant un moment, j'ai pu croire que j'avais tenu lieu de repoussoir.
Vous m'excuserez d'avoir accordé plus d'attention à la Duchesse qu'à ses suivantes, si charmantes fussent-elles. Et si je ne m'abuse, dame, vous étiez encore fort jeune à cette époque. Vous avez grandi depuis lors, en âge, en puissance et en beauté.
La flatterie est un peu facile, chevalier, ne croyez pas vous en tirer à si bon compte. Mais il est vrai que les épreuves m'ont mûri depuis cette époque insouciante. Tandis que vous, sire Edan, on dirait que les saisons, les voyages, les blessures et l'infamie ont glissé sur vous sans vous atteindre. Quel est donc votre secret de jouvence, l'ingratitude, l'inconstance?
Si tels sont les noms que vous donnez à la droiture, je ne vous contredirai pas, dame.
Le rapport, dites-moi, de la droiture à la pusillanimité?
Admettez qu'il faut de la fermeté pour soutenir sans faiblir vos assauts.
Un sourire ambigu se peignit sur les lèvres de la châtelaine. Sur ce point, je vous concéderai que vous n'avez pas froid aux yeux, mais c'est une chose d'être beau parleur, c'en est une autre d'agir en loyal servant. Comme elle émettait ses réserves, la porte de la grande salle livra passage à un nouvel hôte. Tournant la tête, les causeurs reconnurent la silhouette cuirassée et la figure peu attrayante de Fitzurse du Havne. Il paraissait avoir oublié la récente rebuffade du chevalier Hopi et s'avançait vers la compagnie d'un air avenant que sa laideur rendait un peu grotesque. La dame du verre ne lui réserva pas moins un accueil gracieux.
« Ah, mon cher sire Fitzurse, s'écria-t-elle,
il ne manquait que vous. Venez donc vous joindre à nous. »
« Vous ne serez pas de trop pour plaider la cause de Sir Edan, » badina Cowyr de Thèves. « Je suis sûr que le chevalier de Vaumacel n'a pas besoin de moi pour se défendre, » rétorqua le sire du Havne.
Bien que son sourire fût un peu grimaçant, son ton était dépourvu de sarcasme. Des valets ayant ajouté une chaire à sa disposition, il s'y assit sans plus de cérémonie ni de politesse pour la maîtresse des lieux. Azaleïs de Verre ne s'en formalisa nullement. Il existait entre le vétéran mal tourné et la jeune châtelaine une familiarité manifeste. Elle remontait à l'évidence aux années passées à la cour ducale, quand l'un était le soupirant malheureux de la duchesse et l'autre sa demoiselle de compagnie.
« J'ai prévenu Madame Odéarde de votre arrivée, messire, » annonça sans embâge Sir Fitzurse. « Elle est ravie. Elle m'a chargé de vous saluer de sa part. Madame la duchesse nous honorera-t-elle de sa présence ? S'enquit le sire de Thèves.
Le chevalier du Havne secoua son mufle contrefait avec scepticisme.
Madame Odéarde a encore besoin de repos, expliqua-t-il. Je ne suis point mire, mais je pense qu'elle devra garder la chambre quelque temps encore.
Sire Fitzurse a raison, s'empressa de confirmer Azaleïs de Verre. Madame la duchesse se remet étonnamment bien de sa blessure, mais le coup était cruel, et il convient de l'aménager tant qu'elle n'est pas complètement remise. Vous l'excuserez de vous parler par le truchement de ses gens. »
Les chevaliers de Thèves et de Vaumacel y consentirent avec prévenance, encore qu'ils ne pussent dissimuler un peu d'embarras. Leur mission ne serait pas facilitée par les ménagements dont il fallait entourer la grande dame. Quant à la châtelaine, ayant brièvement considéré les sires du Havne et de Maubrenas, elle s'inquiéta soudain.
« Mon cher Fitzurse, vous n'avez pas laissé Madame ma mère sans protection ?»«
Bien sûr que non, dame. Je l'ai laissée sous la garde de sire. »
Il s'interrompit, jaugeant de son œil chassieux les deux nouveaux venus.
« Sous la garde du chevalier Meschevé. »
termina-t-il après avoir marqué une brève hésitation.
« Ah, tant mieux !»
répondit Azaleïs avec un rien de précipitation. « Madame Odéarde est donc entre de bonnes mains. »«
D'autant que son chapelain est également à son chevet !» ajouta le sire du Havne.
D'étrange façon, la petite cour de la dame de Verre afficha fugitivement des attitudes qui juraient avec le caractère rassurant du propos. D'un doigt, le jeune rivalon battait nerveusement la mesure sur sa cuisse. Les railleurs,
Dame de Maubrenas inspecta minutieusement les ongles des mains qu'il avait posées sur ses genoux. Le visage las d'Almody avait pâli, tandis qu'elle se roidissait sur son coussiège. Contrairement à ses manières directes, Fitzurse du Havre ne regardait pas franchement ses pères chevaliers. Seul Azalaïs conservait un maintien plein de distinction, dont l'urbanité tendait toutefois à se faire cassante. Cette gêne n'échappa point à deux hauts hommes comme les sires de Vaumacel et de Thèves. Celui-ci, après avoir pesé ses mots, se risqua à glisser «
Quelle que soit la situation, soyez assurés de notre entière discrétion. »
La jeune châtelaine haussa un sourcil défiant. « Qu'allez-vous imaginer, mon cher Cowir? Les choses sont telles que nous vous les avons peintes. D'ailleurs, je ne doute pas que Madame Odéarde se fera une joie de vous recevoir dès qu'elle sera en état de le faire. Nous devons juste veiller à ne pas la fatiguer. » Le chevalier de Thèves acquiesça, sans toutefois dissimuler le trouble que lui inspiraient ses précautions.
« Madame la duchesse a donc été très grièvement blessée, risqua-t-il.
« Hélas, oui, répondit Azalaïs de Verre. Il est d'ailleurs à craindre qu'elle en garde quelques séquelles.
Au point de ne pouvoir recevoir les hommages de deux de ses chevaliers servants ?»
commenta le sire de Thèves. Tout en prononçant ces mots, il dévisageait les sires de Maubrenas et du Havre, qui, quant à eux, avaient manifestement accès à la chambre ducale. Dame de Maubrenas paraissait fuyant. Fitzurse du Havre, cette fois, soutint l'examen sans ciller.
« Et qui est donc ce sire Meschevet qui garde Madame Odéarde ?»
s'enquit Cowir de Thèves. « Ce nom ne me dit rien. Je ne l'ai jamais croisé à la cour, ni dans l'hôtel de la duchesse. »
La question, une fois de plus, provoqua une gêne palpable dans la petite société. Dame de Maubrenas se renfrogna, l'air sombre, tandis qu'Almody, pâle comme un linge, serrait convulsivement ses mains.
« C'est un chevalier de petite noblesse, mais de bonne moralité, » répondit un peu sèchement Azalaïs de Verre. « Sa loyauté à madame ma mère est sans faille. »«
Il est un peu comme moi, »
ajouta Fitzurse du Havre d'une voix atone. « En quelque sorte, il est tenu par un vœu. » Sa bonne éducation empêchait le sire de Thèves d'exprimer sa déconvenue, mais il n'en parut pas moins déconcerté. Après avoir loyalement servi la duchesse, après avoir risqué sa vie pour elle pendant son procès comme lors du tournoi de l'Immortel, il se sentait mis à l'écart au profit d'un petit chevalier sans réputation. Cela ressemblait fort à une disgrâce. Azalaïs de Verre, parfaitement consciente du risque de froisser le champion, s'adressa à lui avec un regain de cordialité.
« Mon cher Cowir, surtout n'y voyez pas malice, »
s'empressa-t-elle de dire. « Vous ne voudriez pas, par une émotion trop vive, mettre en péril la guérison de Madame la Duchesse. Nous la ménageons énormément. Elle ne reçoit que peu de visites pour lui laisser tout le loisir de se reposer et de récupérer. Elle a déjà fait de beaux progrès. Vous avez ma parole que vous la verrez sous peu, sitôt qu'elle aura recouvré assez de force pour deviser à plaisir. » Le chevalier de Thèves accueillit ces paroles avec reconnaissance, mais conserva un visage soucieux.
« Je vous sais gré d'accorder tant de soins au rétablissement de Madame la Duchesse, »
remercia-t-il. « Cependant, je ne vous cacherai pas que votre discours me cause de l'inquiétude.
La voix publique donnait Dame Odéarde pour convalescente. Mais les précautions dont vous l'entourez me laissent croire que ce n'est pas encore le cas. »
La blessure était très grave, rappela Azalaïs. Et peut-être avons-nous présenté la guérison de Madame ma mère sous un jour un peu enjolivé pour éviter de démoraliser son parti.
nous vous disons malgré tout l'entière vérité, chevalier. Madame la duchesse va beaucoup mieux.
Je ne demande qu'à vous croire, dame. Je serais au désespoir d'apprendre le contraire. S'il est prématuré de voir Madame Audéarde, pourrions-nous du moins en apprendre davantage sur les circonstances de l'attentat? Là encore, je crains que la rumeur ne nous ait que fort mal renseignés sur ce terrible drame.
La petite cour de Verre réagit vivement à la requête du chevalier de Thèves. La mention de la tentative d'assassinat ranima le scandale, la colère et l'affliction sur les visages. Mais de façon singulière, la franchise de ces émotions dissipa en partie le malaise qui venait de contraindre les échanges. La violence qui avait été faite, à travers le coup porté à la duchesse, aux gens de son parti, était si insupportable qu'ils éprouvaient un soulagement manifeste à pouvoir la raconter.
« Un attentat d'une lâcheté sans nom !» gronda Fitzurs du Havne. « Non seulement l'assassin s'en est pris à une dame, mais il a commis son crime par surprise. Et il n'a même pas eu la décence de le faire avec une arme noble.
Ça, le coup est signé, cracha Dame de Maubrenas. Pareille bassesse vient forcément du duc, de sa putain et de leur entourage.
Après qu'il a fait alliance avec le fourbe qui a jadis livré Kelsbruck, que pouvait-on attendre d'autre de la part du duc ? Lança Azalaïs de Verre avec dédain.
« Je tremble d'entendre la suite, » se désola le chevalier de Thèves. « À la cruauté du geste, faut-il donc ajouter l'ignominie du procédé ? Comment l'assassin a-t-il trompé votre vigilance ? Y a-t-il eu trahison ?»
À ces mots, les chevaliers du Havne et de Maubrenas se renfrognèrent de piteuse manière. Les lèvres un peu pincées, la châtelaine détrompa Sir Cowir. Il n'y a plus de traître à Verre, dit-elle. Monseigneur, mon époux, avait veillé à en purger le château avant l'arrivée de madame sa mère. Hélas, nous devons bien confesser que nous avons péché par imprudence et que notre légèreté a offert au sicaire l'opportunité de frapper. Pour consoler madame la duchesse de sa captivité, monseigneur, mon époux, lui avait offert un tiercelet de grand prix, sitôt arrivé en nos murs. Madame Audéarde était folle de joie. La chasse lui avait tant manqué. Nous n'avons pas eu le cœur de la priver de ce plaisir, et le surlendemain de son retour, nous sommes sortis pour faire une chasse au vol, ce qu'elle était heureuse. Les fatigues de la captivité et du voyage s'étaient envolées de ses épaules. Elle était redevenue gaie et gracieuse comme devant. Les hommes de sa suite acquiescèrent avec tristesse. Cependant, nous n'avons pas chevauché à l'étourdie, reprit Azalaïs. D'autant que Sir Dame et Sir Fitzurs, de retour de Lindinas, venaient de nous avertir que le tournoi s'était mal terminé et que des escarmouches se produisaient déjà aux limites de la seigneurie.
« Quasiment à nos portes, » précisa sombrement le Sire de Maubrenas. « Non loin du bosquet de Verre, nous étions tombés sur les traces d'une embuscade dont le brigandage n'était pas la raison, car nous avions récupéré plusieurs chevaux de prix laissés à l'abandon. »
S'il a volontiers consenti à la partie de chasse que lui réclamait sa mère, monseigneur, mon époux, l'a entouré de précautions, poursuivit la dame de Verre. Une escorte armée était chargée de notre sécurité. Fitzurs du Havne enfouit sa vilaine figure dans ses mains avec un gémissement piteux.
Jamais madame Audéarde ne pourra me pardonner cette faute,
geignit-il.
Je veillais sur elle. J'aurais donné ma vie pour elle. Et je n'ai pas réussi à la protéger. Allons, Fitzurs, ne tire pas toute la couverture à toi,
grommela Dame de Maubrenas.
J'étais moi aussi de l'escorte. Je partage le poids de cette faute.
Nous emportons tous le fardeau, repartit Azalaïs avec une indulgence qui ne lui ressemblait guère. Nous n'aurions jamais dû nous risquer dans cette partie de plaisir. Vous savez bien, mes pauvres amis, que monseigneur mon époux se tient pour encore plus coupable que vous. De rage, Il a d'ailleurs tué le bel oiseau qui lui avait coûté si cher. »
S'adressant à nouveau au chevalier de Thèves, elle reprit le fil de son récit.
« La chasse s'était merveilleusement passée, » dit-elle, « et nous étions déjà sur le chemin du retour. Nous chevauchions en plein bois, sous le couvert de la végétation, sans suivre d'itinéraire précis. Comment aurions-nous pu craindre d'être surpris ?»«
Madame la Duchesse a fait un dernier lancer sur un gros faisan que venait de débusquer le chien d'arrêt. Nous n'avons rien pressenti, nous n'avons même pas vu le coup. Un moment, Madame Audéarde lâchait son épervier. L'instant d'après, elle était à terre, baignant dans son sang. Un trait lui avait traversé la poitrine. »
Les figures des fêtes de sa suite attestaient combien ses compagnons restaient marqués par l'événement.
« Moi, je crois bien que j'ai entrevu le tueur, » gronda Dame de Maubrenas. « Hélas, il était trop tard. Il avait tiré du fond d'un chemin de traverse à une distance considérable. Je me suis lancé à sa poursuite, mais le lâche s'était fondu dans les taillis. J'ai eu beau battre les fourrés, j'ai fait buisson creux. »
Pendant que Monseigneur mon époux portait secours à sa mère, j'ai essayé d'organiser la battue pour faire un sort à l'assassin, enchaîna Zalaïs. Hélas, sur le moment, nous n'étions pas assez nombreux et ce chien nous a filé entre les doigts.
Fitzurse du Havne, toujours prostré de honte, se lamenta.
Une fois de plus, j'ai manqué à Madame Audéarde.
De toute façon, nous étions trop abasourdis pour être efficaces,
intervint doucement le jeune Rivalon.
Madame la Duchesse avait un pied dans la tombe. Nous étions aux 100 coups, et Monseigneur Méléagant avait perdu son sang-froid.
Dire que nous l'avons crue morte,
gémit le chevalier du Havne.
Morte ? Par notre faute ?
Pendant un instant, la consternation fut générale, comme si tous les témoins avaient revécu la scène.
C'est la vérité.
« Nous avons pensé qu'elle était perdue, » confirma la jeune châtelaine d'une voix blanche.
« Ou du moins, la plupart d'entre nous, et par un étrange caprice du sort, c'est précisément ce qui l'a sauvée. Nous l'avons ramenée le plus vite possible au château, mais elle ne donnait plus signe de vie. Hormis Monseigneur, mon époux, qui refusait d'admettre le pire, nous avions tous perdu espoir. Seul mon cher mari voyait juste. Mais, folle que j'étais, j'ai cru qu'il s'aveuglait devant l'inévitable. Dans cette extrémité, nous avions besoin des secours de la religion. J'ai pris sur moi d'envoyer Rivalon chercher les frères du Bosquet afin que Madame Audéarde reçût les sacrements appropriés. Deux d'entre eux se sont présentés, au grand courroux de mon époux qui a failli s'en prendre à eux et à son écuyer. Et pourtant, un moment plus tard, il les couvrait d'aumônes et de démonstrations d'amitié. Ce sont les Dessicatoriens qui, s'étant penchés sur Madame Audéarde, ont donné raison à mon mari. Ils ne pouvaient célébrer les rites funéraires, car Madame, ma mère, n'avait pas encore rendu l'âme.
Le sire de Thèves se détendit comme s'il venait d'assister à la scène.
« Quel soulagement ce dut être !» s'exclama-t-il.
C'était au mieux un douloureux regain d'espoir,
soupira le chevalier du Havne.
Pour être encore de ce monde, Dame Audéarde n'en restait pas moins au plus mal.
Sire Fitzurse dit vrai, confirma Zalaïs. Madame la Duchesse était au bord du gouffre. Par bonheur, nous l'avons retenue.
Qui donc eut la main assez heureuse pour la garder parmi nous?
S'enquit Cowir de Thèves avec élan.
La dame de verre le considéra avec une expression singulière que l'on eût pu croire teintée d'arrière-pensée. « Nul d'entre nous, » avoua-t-elle. « Madame Audéarde était déjà bien au-delà de nos secours. C'est un jeune frère dessicatorien qui l'a sauvée. »
Les chevaliers de Thèves et de Vaumacel ne dissimulèrent point un mouvement de surprise.
« Un Desicatorien ? Vraiment ?»
s'étonna Cowyr de Thèves.
« Aussi incroyable que cela paraisse. »
« Je me serais plutôt attendu à ce que les soins eussent été prodigués par un frère ou une sœur du culte dulcinien. »
« À votre place, j'aurais pensé comme vous, mon cher Cowyr. Mais considérez notre situation. Aucun sanctuaire de la douce dame ne se trouve au voisinage de Vert. En revanche, la nécropole est au pied du château. »
Azalaïs parut chercher quelqu'un des yeux dans la grande salle.
« Frère Califor ? »
appela-t-elle.
« Où est le frère Califor ?»
Et ayant avisé la silhouette encapuchonnée qui restait dans l'angle de la cheminée, elle l'interpella.
« Ah, frère Califor, que faites-vous donc là-bas ? Venez vous joindre à nous. »
De mauvaise grâce, le prêtre quitta son coin et rejoignit à pas lents la compagnie. Sa robe noire et un peu élimée, à l'ourlet crotté, jurait au milieu du luxe de la grande salle. Il s'arrêta à quelque distance des causeurs, plein de raideur, sans prendre la peine d'ôter son capuce.
« C'est à vous que revient l'honneur d'expliquer comment Madame la Duchesse a été tirée d'affaire, »
lui dit gracieusement la châtelaine.
« Vous savez bien que je n'ai que mépris pour les mondanités, »
lui répondit le sombre personnage. Ses paroles avaient été moins proférées que grommelées, mais le timbre en était si grave qu'il emplit sans effort le vaste volume de la salle. À cette voix, les chevaliers de Thèves et de Vaumacel tressaillirent, ainsi que Nem. Ce n'était pas la première fois qu'ils l'entendaient.
Voici le frère Califor, présenta Azalaïs de Vert. C'est le nouveau tourier du bosquet. Il est l'un des deux prêtres qui, sollicités au milieu du drame dont nous parlons, ont sauvé Madame la Duchesse.
Telle était la volonté du Dieu,
gronda le Desicatorien.
Je n'ai aucun mérite en la circonstance. En outre, ce n'est pas moi qui ai prodigué les grâces thaumaturgiques, mais mon acolyte.
Votre humilité ne vous dispensera pas de notre reconnaissance, mon frère,
salua le chevalier de Thèves.
Nous vous sommes infiniment obligés pour le secours que vous avez apporté à Madame Odéarde.
Fitzurse du Havne approuva ces paroles avec conviction.
Mais je n'en suis pas moins émerveillé, poursuivait Cowyr de Thèves. Je croyais que les prêtres du desséché n'accordaient leurs soins qu'aux défunts.
Ce n'est qu'un versant de notre sacerdoce,
répondit Califor.
La véritable mission que nous a confiée le Dieu est d'apporter la paix aux âmes immortelles. Il arrive de temps à autre, comme ce fut le cas pour Odéarde de Bromel, que les proches d'un mourant se trompent et nous appellent au chevet d'un croyant qui n'a pas encore rendu le dernier souffle. Que voudriez-vous que nous fassions ? Que nous nous détournions du malheureux travaillé par l'agonie ? La charité nous commande de porter assistance aux vivants comme aux morts. Et s'il existe un espoir, de ramener l'âme qui erre entre la vie et la mort, nous devons l'aider à reprendre pied sur cette rive.
Par ma foi, j'ignorais tout de cette règle dans votre culte.
Parce que, depuis trop longtemps, le culte a été stigmatisé au profit des trois autres clergés,
gronda le Desicatorien.
Et pourtant, le resplendissant et la vieille déesse préparent eux aussi au trépas, chacun selon sa doctrine. Mais le profane les assimile aux principes de vie, tandis qu'il fait du desséché l'unique seigneur des morts. Quelle ignorance! Les mystères cycloteïstes sont autrement subtils.
Loin de moi l'idée de me lancer dans une controverse religieuse,
s'inclina aimablement le chevalier de Thèves.
Il me suffit de savoir que vos commandements ont préservé la vie de Madame la Duchesse, et j'abjure bien volontiers toutes les idées fausses
que je pourrais avoir sur le culte du desséché. »
Pendant cet échange, le sire de Vaumacel n'avait pas quitté des yeux le prêtre funèbre. Dans l'ombre du capuchon, il devinait un visage livide et disgracié, affligé d'un fort strabisme.
« Ne nous sommes-nous pas déjà croisés, mon frère ?»
lui demanda-t-il tout à trac.
« C'est possible, » répondit le dessicatorien. « La mort entre dans toutes les maisons, chez les humbles comme chez les puissants. Je songeais à d'autres circonstances. J'ai d'abord reconnu votre voix, et puis votre allure. N'est-ce pas vous qui avez prêché les troupes au tournoi de Lindinas ? Plutôt que ma voix et mon allure, j'aurais préféré que vous vous rappeliez la parole divine, rétorqua le prêtre.
C'est bien vous, pas de doute. Je reconnais bien là le ton de votre prédication.
Et vous, étiez-vous de ces insensés prêts à jouer leur vie et celle de leur prochain par pure vanité ? Vanité, dites-vous. C'est mésestimer l'abnégation que requiert le service des dames. Encore ce vain prétexte dont vous déguisez votre orgueil. Le plaisant de l'affaire, mon frère, c'est que vous avez finalement mieux servi que nous ce prétendu prétexte. Voilà une raison amplement suffisante pour que je vous témoigne toute ma gratitude. Mais, parbleu, Lindinas est fort loin de Vers pour le tourier d'un sanctuaire. Qu'est-ce qui vous avait amené au tournoi du comte Anguzel ? La folie !
Califor parut toiser le chevalier aux épines pour autant que son regard louche pût être interprété.
La folie d'une fête meurtrière, où tant d'insensés, croyant combattre pour le plaisir, risquaient une mort prématurée et inutile.
Gronda-t-il. Le desséché ne réprouve pas la violence légitime, mais il condamne la violence gratuite.
Mourir pour rien, c'est profaner le don le plus précieux que nous a accordé la grâce divine. Il était de mon devoir d'intervenir, pour vous ramener à la piété. »
Baissant un peu le ton, mais sans abandonner l'éloquence sermonnaire, le dessicatorien poursuivit.
« Les défunts trouvent la paix quand, ayant pu aller au bout de leur existence, ils ont préparé leur salut. Mais les âmes qui meurent avant terme sont remplies de chagrin, de colère et de confusion. Je vous le dis, il n'y a pas de beau mort sur un champ de bataille. C'est une perversion que d'admirer ceux qui sont tombés les armes à la main. Leurs mânes infortunés ne savent pas renoncer à ce monde et errent dans la peine. Alors, en plus, mourir pour rien, pour une fête stupide, c'est la pire des tragédies, la plus scandaleuse des impiétés. Croyez-moi, tenter d'éviter un seul trépas aussi absurde, cela vaut bien de faire le chemin d'ici à Lindinas. En tout cas, il est heureux que vous l'ayez suivi dans l'autre sens, à temps, pour sauver Madame la Duchesse.
Salua Edan avec une imperturbable politesse. Le prêtre tordit sa vilaine bouche en un rictus amer.
« Vous n'avez pas écouté un mot de ce que je vous ai dit. »
remontra-t-il.
« Où vous mènera cette dureté parée de belles manières ?»« Là où l'honneur me conduit. » »« L'honneur ne conduit qu'à l'idolâtrie de soi, ainsi qu'à de beaux gestes. Tenez, comme la défense de nos terres contre les barbares qui soumettent vos frères au supplice. »
Azalis de Vert, que le tour de cette conversation indisposait, coupa le tourier avant qu'il ne pût chanter les louanges du martyr. Elle n'eut pas à feindre pour manifester un mélange de curiosité et d'inquiétude au sujet de l'offensive ou romande. Les sires du Havne et de Maubrenas
l'avait déjà instruite des événements de Lindinas, et le jeune Rivalon lui avait rapporté par le menu les opérations militaires de son époux en direction de Carwell. En revanche, elle ne connaissait du désastre d'Aberbechan et des troubles dans la vallée de la Clay que ce que la rumeur avait colporté jusqu'à Ver. Bien qu'elle n'eût que peu d'estime pour Edan de Vaumacel, elle lui prêta néanmoins l'oreille, puisqu'il était le seul des chevaliers présents à avoir pris contact avec l'ennemi. Le sire de Vaumacel peignit avec franchise ce dont il avait été témoin. S'il parla sans dissimuler ni arranger les faits. Il se conforma cependant à la ligne définie avec le sire de Thèves au cours de leur voyage pour présenter les événements sous un jour qui facilita la requête d'Anguzel de Kimark. Aussi, afin d'expliquer son incursion infructueuse dans les territoires perdus par le duché, commença-t-il par évoquer la demande de rançon que le roi Hartclyde avait adressée au comte de Kimark par le truchement du chevalier Hopi. Il peignit les campagnes pillées, les ruines du château de Bantraet, les morts brûlés sur le champ de bataille, les prêtres pendus et mutilés. Les chevaliers du Havne et de Maubrenas s'en frémissaient de colère et maudissaient l'inconséquence du duc qui les empêchait de rejoindre son armée. La rigidité muette du frère Califor paraissait quant à elle si grosse de menace qu'elle impressionnait davantage que le courroux des hommes de guerre. Le portrait que fit ensuite le chevalier de Vaumacel du Tan du Farbog, de sa cupidité et des calculs perfides qu'il servait, suscita un scandale unanime dans la noble société. Jouant sur ce sentiment, il était plus facile de peindre le désarroi du comte de Kimark, incapable d'entrer en guerre tant que son fils restait otage. L'inquiétude que suscita chez l'auditoire l'inaction du comte préparait le terrain à la requête dont le chevalier aux épines était porteur. Mais il se garda d'en faire état dans l'immédiat. « Hélas, prévint-il, un malheur n'arrive jamais seul. Et je crains de devoir vous apprendre un autre crève-cœur. » À ses auditeurs bouleversés, il résuma alors la confession du frère sergent Vinmer. On ne voulut pas croire d'abord qu'un chef barbare eût pu faire enlever le grand devin de Belcastel pour le tuer de ses propres mains. Puis, l'effarement le disputa à la rage au sein de la petite cour de Ver. À la différence des vassaux de Kimark, plusieurs des suivants de la duchesse avaient jadis fréquenté l'écrivain dans l'entourage de la suzeraine. Si Azalaïs de Ver était trop jeune pour l'avoir rencontré, Almody, dame de Maubrenas et Fitzurs du Havne, se souvenait de l'agrément qu'Odéhard de Bromel avait eu à converser avec l'auteur du Bel Églantier. De l'avis de tous, il était capital de venger ce meurtre gratuit et ignoble. L'indignation des partisans de la duchesse se doublant de l'embarras d'être dans l'incapacité de le faire. Les émissaires du comte de Kimark se consultèrent du regard. L'état d'esprit de leurs interlocuteurs semblait prêt à recevoir le message dont ils étaient porteurs. Mais c'eût été une faute de le leur en délivrer la teneur avant d'avoir pu en entretenir la suzeraine. Aussi, sans un mot, tombèrent-ils d'accord pour lui en réserver la primeur.
« Ah ! Si le duc chassait sa putain et faisait amende honorable, avec quelle joie je rejoindrais Lost pour écharper de lourds romans !»
enrageait Dame de Maubrenas.
« Et moi donc ?»
renchérissait le sire du Havne.
« Ah ! Mais nous ne pouvons rester les bras croisés, tenez ! Je vais aller trouver Ganelon et lui dire qu'il ne tient qu'à lui de faire la paix avec nous. Il me traitera de fou, mais il serait encore plus fou que moi de s'entêter dans son erreur après avoir perdu tant de bons chevaliers. Il faudra bien qu'il finisse par entendre raison. »
Mais la dame de Ver afficha aussitôt une grande réticence à cette idée. « Mon cher Fitzurs, vous devriez d'abord en parler avec madame ma mère, » fit-elle valoir. « Je doute qu'elle laisse partir un ami dévoué dans une ambassade si hasardeuse. » « De toute façon, » fit valoir Rivalon, « nous n'aurons peut-être pas à rallier l'armée ducale pour en découdre avec les barbares.
puisque le comte de Kimark est lié par la captivité de son fils, Louroman pourrait très bien passer ses défenses sans coup férir et nous assiéger sous peu.
« Il ferait beau voir qu'il se frotte à verre !»
ricana Dame de Maubrenas.
« Espérons juste que monseigneur, mon époux, les prendra de vitesse, »
énonça Azalaïs. « Je suis fort aise que vous nous ayez annoncé son retour, Rivalon, mais je serais plus tranquille s'il se trouvait déjà dans nos murs. » Les sires de Thèves et de Vaumacel s'étant empressés d'offrir leur épée pour défendre la dame, celle-ci gratifia le second d'un sourire mordant.
Il vous aura fallu reculer fort loin avant de prendre les armes contre l'ennemi que vous avez rencontré devant Vekinsberg,
railla-t-elle.
À Vekinsberg, le jeu n'en valait pas la chandelle,
badina le chevalier aux épines.
Il n'y avait plus de dames à défendre.
Si je vous comprends bien, chevalier, il faudrait envoyer les dames en première ligne afin de réveiller l'ardeur des gentilshommes bromalois et reconquérir les territoires perdus.
L'idée est plaisante. L'armée serait contrainte de vaincre. Toute autre issue serait par trop discourtoise.
Et dites-moi, Vaumacel, est-ce pour nous faire cette courtoisie que vous voici séant? Vous êtes-vous rappelé qu'il fallait défendre la dame que vous avez abandonnée? Que nous vaut donc à la duchesse et à sa maison ce brusque retour de flamme?
Le ton ironique de cette question ne la rendait que plus incisive. Azalaïs de Verre avait fort bien compris que ces deux hôtes ne lui avaient pas encore révélé le motif principal de leur visite. La galanterie que venait d'invoquer Edan de Vaumacel par jeu un peu convenu donnait à la jeune châtelaine l'occasion de mettre sa parole à l'épreuve en le sondant sur ses intentions réelles.
« Vous devinez juste, dame, »
dit le chevalier.
« Je ne suis pas seulement venu pour faire amende honorable, ni pour vous proposer mes services, mais chargé d'un message pour madame la duchesse. »«
Ah ! Nous y voilà.
Allez au fait. Quelle prière le comte de Kimark nous adresse-t-il ?
Une dame, aussi respectueuse que vous des usages de cour, comprendra qu'il serait indélicat de ma part de révéler une communication destinée d'abord à madame la duchesse.
Azalaïs leva un sourcil, l'air un peu piqué par l'impertinence du propos. Son expérience de la cour lui avait appris que la plupart du temps, on n'y invoquait les usages que pour mieux les contourner. Toutefois, il eût été malséant de le formuler. Le comte Anguzel doit être aux abois pour envoyer un messager de votre sorte, nous donner des leçons de délicatesse, persifla-t-elle.
Il vous a également adressé le chevalier de Thèves,
fit valoir Edan. Ainsi qu'un troisième gentilhomme, si civil qu'il est parti avant même de m'avoir salué.
L'impair est déplorable,
convint le sire de Vaumacel.
Mais les aventureux du bois Oiselé se sont toujours montrés fantasques et imprévisibles.
Concernant cet oiseau-là, insultant serait un terme plus juste,
grommela Fitzurse du Havne. Cowir de Thèves esquissa un geste conciliant à l'adresse de son compagnon d'armes.
Vous avez raison. Son attitude à votre égard a laissé à désirer, reconnut-il. Mais n'oublions pas que sans le chevalier au pied, nous aurions été vaincus à Lindinas. Non content d'avoir soutenu la cause de madame la duchesse, il a pris sur lui d'ouvrir les pourparlers entre le roi Art Clyde et la cour de Kimark. C'est un auxiliaire précieux. Hélas, les couleurs que vous avez adoptées lui ont rappelé de pénibles souvenirs. Considérez que son attitude défiante s'adressait à l'ennemi d'antan plutôt qu'à votre personne.
Il est vrai que vos couleurs sont bien singulières,
renchérit Edan.
Est-ce par gratitude pour le secours apporté par les Dessicatoriens à madame Odehard que vous les avez endossées?
Par ma foi, on ne peut rien vous cacher, grinça le chevalier du Havne.
Azalaïs de Verre éleva une main avec autorité. « Notre cher sire Fitzurs a fait ce que lui dictait son cœur et son honneur, » trancha-t-elle. « Et il serait bien extraordinaire que quelqu'un ose lui en demander raison sous ce toit. Ce n'est point lui qui est sur la sellette, sire Edan, c'est vous. Comment voulez-vous que nous révisions notre opinion sur votre personne si vous donnez le sentiment de dissimuler ?»
C'est un affreux malentendu que je ne demande qu'à dissiper, qu'on me mette en présence de Madame la Duchesse, et je délivrerai le message du comte sans rien sceller.
Et si elle est trop faible pour vous entendre? Allez-vous garder ce message par-devers vous, dans de si graves circonstances?
Ne peut-on commencer par demander à Madame Odéarde si elle se sent les forces de me recevoir en compagnie du chevalier de Thèves?
Sans doute sera-t-elle ravie de recevoir Sir Cowyer. Quant à vous, je n'en jurerai point. Ôtez-moi d'un doute, Vaumacel. Vous n'oseriez tout de même pas retenir ce message juste pour avoir le prétexte de forcer le seuil de Madame ma mère?
Cette façon de plaider mon pardon serait si maladroite que je ne l'ai jamais envisagée,
répondit le chevalier avec un demi-sourire. Dame de Beaubrenas, que cette passe d'armes commençait à impatienter, intervint avec un peu de brusquerie.
« Madame la Duchesse a la préséance. Eh bien, sitôt qu'elle sera moins faible, qu'on lui envoie Sir Cowyer. Il délivrera le message du comte et nous pourrons aviser. »
Le chevalier de Thèves parut toutefois un peu embarrassé par cette proposition. « Je serais ravi de présenter mes hommages à Madame Odéarde et de lui adresser mes vœux de guérison, » dit-il. « Mais je ne suis peut-être pas l'émissaire le plus indiqué pour rapporter les propositions du comte de Kimark. Je me suis joint au sire de Vaumacel en cours de route. Je n'étais point dans l'entourage de Monseigneur Anguzel à Neuvidine. Je crains de m'écarter de la lettre de ses instructions.
« Allons donc !» grommela le chevalier de Maubrenas. « Que Vaumacel vous apprenne la leçon et vous ferez l'affaire aussi bien que lui. »
Et puisque vous vous êtes réconcilié avec lui, vous pourrez même plaider sa cause auprès de Madame ma mère, ajouta Azalaïs avec plus de finesse. Cowyer de Thèves consulta à nouveau le sire de Vaumacel, qui lui fit une mine accommodante.
Ce ne serait pas la première fois que vous me remplaceriez, badina-t-il. En outre, la dame de Verre a raison. Vous serez mieux entendu que je pourrais l'être. »
Bien qu'un consensus se fût dessiné, la châtelaine ne paraissait pas pressée de le mettre en pratique. La conversation ayant duré, la lumière entrée par les fenêtres se faisait oblique. Azalaïs de Verre ordonna que les tables fussent dressées pour offrir le souper à ses hôtes. Avec une politesse dépourvue de chaleur, elle invita le frère Califor à se joindre au repas. Le dessicatorien déclina, invoquant une neuvaine pénitentielle, et prit congé de façon un peu abrupte pour regagner le bosquet. Le départ du prêtre soulagea plus qu'il ne chagrina les convives. Les sires de Thèves et de Vaumacel furent toutefois étonnés de voir qu'un échanson déposait une coupe de vin sur le bord d'une fenêtre. Ce rite funèbre n'avait cours qu'en hiver et n'avait plus lieu d'être à la belle saison. Alors que la petite cour allait se mettre à table, un valet glissa quelques mots à Nem. Le vieil écuyer réprima un mouvement de colère. Se rapprochant de son maître, il lui annonça à mi-voix.
« Qu'elle a encore fait des siennes. Il vient d'être ramené dans un poste de garde. Allons bon, quel mauvais tour a-t-il inventé ? » ?»«
Rien de trop grave cette fois. Il est juste monté sur les toits, mais... » Cela a créé de l'émotion dans le château.
Le petit imbécile. Il ne pouvait pas tomber plus mal à propos pour faire l'intéressant. Va le chercher, Nem, et veille à ce qu'il se tienne tranquille.
Ayant opiné du chef, le vieux valet d'armes s'éclipsa discrètement. Au cours du repas, Azalaïs de Verre tint à honorer le sire de Thèves en lui offrant de siéger entre elle et Dame Almody. Le sire de Vaumacel, quant à lui, fut relégué en bout de table. Le chevalier aux épines accepta ce camouflet d'une humeur égale, bien que l'écuyer Rivalon lui-même fût mieux placé que lui. La question de l'ambassade auprès de la duchesse fut remise à plus tard. La jeune châtelaine invoqua le plus sérieusement du monde que la nuit porterait conseil et que l'on y verrait plus clair le lendemain. Bien que l'on servît des plats délicieux, gravés d'écrevisses, galimafrés aux épices, rissoles aux fruits, le tout arrosé d'hypocras et de vin fin, les convives n'avaient guère d'appétit. La conversation tournait sans cesse autour de la terrible défaite du pont d'Aberbechan et de ses conséquences. Les dames et les chevaliers évoquaient avec incrédulité tous les morts de haute naissance dont les dépouilles avaient été brûlées et les cendres dispersées par les ouromans. L'humeur n'était plus tant à la révolte qu'à la consternation. Quoique les tués aient été les partisans du duc, ils n'en appartenaient pas moins à la noblesse de Bromel. Ils demeuraient liés aux rebelles de Vert par les liens du sang, mais aussi par la courtoisie et même la rancune. Il était terriblement outrageant que les brutes d'Ouromagne se fussent ainsi mêlées d'empêcher le développement codifié des querelles féodales. Azalaïs de Vert, Fitzurse du Havre et les deux chevaliers de l'hôtel de la Duchesse se montraient également très affectés par le trépas de Dilsin de Maginois. Ils lui en voulaient, certes, d'avoir abandonné le camp du Dedans au tournoi de l'Immortel, mais pas au point de souhaiter sa mort. Ils savaient tous qu'Odéarde de Maginois avait de l'affection pour ce neveu, et ils débattirent un moment pour décider s'il fallait ou non lui dissimuler cette nouvelle jusqu'à ce qu'elle fût complètement guérie. La conversation revint également rouler sur le meurtre de Devin de Belcastel. Rivalon, qui connaissait son bel églantier par le menu, paraissait plus choqué par cette disparition que par celle de grands noms du duché, comme le connétable de Traval, Bruin de Bangarde ou Bérard d'Estrif. Aux yeux de cet écuyer raffiné, Ferbassac à Pindulf avait commis l'irréparable. Quelque chose de plus condamnable que le massacre des gens de guerre, la conquête des terres et même le supplice des prêtres. Après tout, l'impôt du sang est le tribut que verse la noblesse pour ses privilèges, expliquait-il. Et la palme du martyr forme l'apogée d'un engagement religieux, mais tue-t-on les poètes? En ôtant la vie à Devin de Belcastel, le barbare avait vandalisé l'esprit de Bromel, soutenait l'élégant Rivalon. Ce crime était impardonnable parce qu'il avait asséché ce qui, en dépit des querelles de famille, unissait toute la bonne société dans les mêmes plaisirs et le même art de vivre. Le jeune homme parlait avec un feu qui ne ressemblait guère au flegme étudié qu'il cultivait d'ordinaire. La tombée de la nuit, en assombrissant les voûtes de la grande salle, tandis que les valets allumaient lampes et flambeaux, donnait une tonalité funèbre à son discours. Au bas de la cour, quelques chiens du chenil saluaient la montée des ombres par des hurlements lugubres qui résonnaient plaintivement dans le dédale castral. Au bout d'un moment, trouvant peut-être l'écuyer moins spirituel qu'à son habitude, Azalaïs de Vert finit par l'interrompre. « Mon cher Rivalon, vos déplorations ne ressusciteront point le grand Devin, » soupira-t-elle. « En revanche, il existe un moyen de dépasser ce malheureux événement » et d'en faire l'apothéose du disparu. Devin de Belcastel nous a donné le moyen de sécher les larmes que nous versons sur sa mort. Continuons à nous divertir grâce à son bel églantier. Sa parole sera plus efficace que vos grands mots pour démontrer la supériorité de l'esprit sur la brutalité. Allons, consolez-nous, mon ami, en commençant par vous consoler vous-même. Récitez donc une aventure du bel églantier. Vous êtes désormais l'un des nombreux dépositaires de l'âme du défunt. Prêtez-lui votre voix. Rendez-le un moment à la vie et soulagez-nous un peu de notre mélancolie. Rivalon s'inclina et s'exécuta sans enthousiasme, mais avec une parfaite politesse. Après avoir rassemblé ses esprits, il entreprit de raconter l'aventure du beau trouvé. Toutefois, il le faisait le cœur lourd. Sa voix, atone, n'avait pas le brillant qu'il mettait d'ordinaire dans une déclamation. Dehors,
Alors que la nuit s'épaississait, le chenil se faisait de plus en plus bruyant. Toutes les meutes de vers rivalisaient de plaintes et de glapissements. À ces ululements funèbres répondait une cacophonie de craillements tombés des toits où s'agitait le banc ténébreux des freuses et des corneilles. Avec un zèle qui trahissait une certaine habitude, les valets s'empressèrent de refermer tous les volets intérieurs de la grande salle. Mais la triste cacophonie continuait à résonner derrière les vantaux, comme un concert de gémissements sous le couvercle d'une bière. Cette sourdine geignarde dévitalisait le comte et effaçait les images colorées qui, en d'autres circonstances, auraient jailli des vers. Dans cette atmosphère lugubre, l'écuyer dévidait platement un texte dont le déroulé échappait à l'auditoire. Du reste, Rivalon ne put aller au bout du récit. Au tumulte des chiens et des oiseaux vint s'ajouter bientôt un autre vacarme. Des corps et des cris déchirèrent la nuit. Des cavalcades et des appels fusèrent sur les chemins de ronde. Le tapage d'un piétinement nombreux résonna sur le tablier du premier pont. Saisi, l'écuyer perdit le fil de son récit. Tous les convives dressèrent l'oreille. Qui se présentait donc à la brune aux portes de verre? L'ennemi s'était-il déjà frayé une voie dans la vallée de l'Andoune? Alors que Dame de Maubrenas et Fitzurse du Havne s'apprêtaient à rejoindre le rempart, un homme d'armes fit irruption dans la grande salle. C'était l'un des sergents postés aux portes de la tour Malestru.
« Il est revenu !» s'écria-t-il. « Le seigneur, mêlé à gants, est de retour !»